Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour. Réunis au nom du Seigneur, nous allons entendre aujourd'hui sa parole, tirée d'un passage de l'Évangile demandé par vous-même. Je ne sais plus qui est l'auditeur ou l'auditrice qui l'a demandé, mais cette semaine, nous parcourons quelques fleurs du royaume de Dieu, selon vos demandes. Aujourd'hui, nous allons aller dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4. Alors attention, 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 parce que vous allez entendre des choses que vous avez peut-être pour la plupart déjà entendues, et c'est toujours le piège avec l'Écriture, on dit « bon, c'est bon, on connaît ». Ah, on a déjà entendu, depuis tout petit, pour les plus anciens. Alors que la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, le Seigneur veut nous parler. Aujourd'hui, maintenant, le Seigneur veut toucher notre cœur, l'illuminer et nous emmener là où il veut nous emmener, on ne sait pas. Et une attitude indispensable de notre côté, à nous, croyants, vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est la pauvreté. L'esprit de pauvreté. On ne sait pas ce que le Seigneur va nous dire. C'est pourquoi nous sommes dans l'action de grâce, dans la joie et dans une soif immense que sa parole vienne toucher, impacter, nourrir notre cœur. Alors nous demandons à celle qui est la bonne terre par excellence et qui porte du fruit sans cesse, à la Vierge Marie, que cette catéchèse porte beaucoup, beaucoup de fruits dans notre vie. Vierge Marie, dispose nos cœurs à recevoir cette parole de feu que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Aide-nous à vivre ce temps que le Seigneur nous donne, ce moment, en étant attentif à ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus traverse la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où l'as-tu donc, l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui, source d'eau, jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, « Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. » Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi. « Femme, l'heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit « Que cherches-tu ?» ou « De quoi lui parles-tu ?» La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas encore 4 mois et vient la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton, autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués, vous, vous héritez de leur fatigue. » Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole, et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. C'est extraordinaire ce qui se passe. Cette rencontre entre une bien-aimée de Dieu et son Seigneur. Autour d'un puits, Ah, il s'est déjà passé pas mal de jolies choses autour des puits dans l'Ancien Testament. Et c'était souvent ce point d'eau où les gens venaient chercher à boire pour remplir les cruches, les seaux. C'était dans certains passages de l'Ancien Testament, souvent lié justement au caractère nuptial, au caractère conjugal. Et ce n'est pas du tout le fruit du hasard, évidemment, que Jésus arrive à ce moment-là en Samarie. Il lui fallait traverser la Samarie. Est-ce que c'est un problème? Pour lui, non. Pour les Juifs, oui, parce que de fait, ils ne se parlent plus. Les Samaritains sont considérés comme des schismatiques, comme des hérétiques, des gens mélangés dans leur foi, parce qu'ils ont en même temps accueilli la parole de Dieu, la Torah, mais ils ont fait des mélanges. Alors, ils ont construit un temple sur le mont Garizim. Alors, ils n'adorent plus le Dieu unique sur le temple de Jérusalem, mais ils adorent des dieux, des divinités. Cinq divinités. Il y a donc de grandes pollutions dans l'intelligence de cette femme, du peuple samaritain. Et le Seigneur est venu d'abord pour les enfants, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Jésus, il est complètement mu par la volonté du Père. Ce qu'il veut, c'est ce que veut le Père. Alors, il se laisse envoyer par le Père. Et il traverse avec le Père cette région de Samarie, la ville de Sychar à côté, et puis avec ce puits de Jacob, pour rencontrer cette petite fille samaritaine qui est perdue dans son intelligence, parce que voilà, au niveau de sa foi, c'est pas ça. Perdu aussi au niveau de son cœur, car évidemment, même si les maris dont il est question font allusion au Baal, si vous voulez, aux divinités païennes, il y a la réalité concrète de cette femme qui a eu cinq maris, qui vit avec un homme qui n'est pas son mari, et voilà que Jésus arrive. En septième. Le septième jour. Le 7. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Autrement dit, cette femme, au niveau de son cœur, de son amour, de son affectivité, de tout ce qui la meut, la pousse, la fait vivre, elle est non seulement blessée dans son intelligence, mais elle est blessée dans son amour aussi. C'est une femme blessée que Jésus, que le Père veut rencontrer. Il veut retrouver sa petite fille. Et alors il envoie son fils. La nourriture dont le Père se nourrit, c'est nos cœurs. Nos oui, notre amour. Il a soif de notre amour. Dieu a soif de notre amour. Dieu a soif de nos actes de foi. Dieu a soif de notre amour. Et alors il va chercher et sauver ce qui était perdu. Cette petite fille est perdue. Et comme chacun de nous, nous étions perdus. Ah, on croyait à toutes sortes de choses. Et puis on avait nos divinités, nous aussi. Et puis peut-être que certains d'entre vous qui écoutent cette catéchèse se disent, mais moi aussi, j'ai des petites divinités là cachées. Des petites réalités à laquelle je fais un peu d'encens de temps en temps. Ah, moi aussi, dans ma tête, je suis un peu pollué quand même. Il y a des idéologies quand même qui traînent hein, en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de virus, hein. Beaucoup de virus intellectuels en ce moment. Beaucoup d'idéologies. Et puis ben voilà, une partie de l'humanité, il faut avouer, se laisse prendre. L'intelligence est très, très polluée. Très polluée. On est dans un temps de grande pollution. Où l'être humain adhère à des choses qui ne sont pas vraies. Donne leur consentement à des paroles mensongères. Et ben ça a un impact sur la vie des gens. Oui. Ça transforme. Ça induit des comportements qui n'auraient pas été ceux-là si les personnes avaient adhéré à la vérité de la parole de Dieu. Si au lieu d'adhérer à des idéologies, à des courants de pensée qui sont loin des pensées de Dieu, loin de la révélation divine, gardée jalousement par le magistère de l'Église catholique, alors l'intelligence s'égare. Nous sommes dans un grand temps de confusion au niveau de la vérité, au niveau de la... Oui, de la vérité, de la réalité. Il y a beaucoup, beaucoup d'intelligences qui sont polluées ici-bas, en ce moment. Le prince de ce monde agit puissamment, comme il avait puissamment agi dans le jardin d'Éden, en venant d'abord polluer l'intelligence d'Ève, en venant falsifier la parole de Dieu qui n'est que vérité, que lumière, que bonheur, etc., et en la transformant un petit peu, pour que Ève, se laissant distraire, elle n'adhère plus à la parole de Dieu, mais aux paroles du serpent. Car nous sommes faits, notre intelligence, elle est faite pour adhérer, pour consentir, pour reconnaître ce qui est et ce qui est vrai. Alors tout le temps, le démon va venir nous dire, bah, tu vois, ça c'est vrai ça, regarde. T'es nul, t'es moche, t'es qu'une lavette. Hein, c'est vrai, hein, regarde. Regarde ça. Et puis, si on y prend pas garde, on va dire, bah, c'est vrai. Je suis nul, je suis une lavette. Je suis moche, je sais pas quoi. Hein. Tandis que la parole de Dieu, elle dit quoi? Mais t'es mon enfant bien-aimé. Tu es mon chéri, tu es ma chérie. Vous voyez, un exemple concret. Et puis on peut reprendre toutes les théories qui semblent toujours vraies. Le démon est mensonge. Les démons mentent tout le temps, mais il dit quelque chose de vraisemblable, c'est-à-dire que ça semble vrai. Et comme l'intelligence elle est faite pour adhérer à la vérité, ben du coup, on se dit ben ça nous semble vrai quand même ça. Et ben du coup on adhère. Et on se fait avoir. Typique les calomnies, par exemple. Les calomnies qui traînent, et puis sur des gens, voilà, des réputations, sur... ouais, on m'a dit ça, un tel et tout, apparemment, ceci, cela et tout, et puis on vous raconte des choses. Ce sont des médisances ou des calomnies, en tout cas. Vous dites, ben, si mon ami me dit ça sur telle personne, c'est que c'est vrai, vous n'allez pas vérifier. Lui-même le tient d'une personne, qui lui-même le tient d'une personne, qui elle-même le tient d'une personne, etc. Et au fait, il y a des choses comme ça qui sont fausses, mais vous avez adhéré à quelque chose qui est faux, pensant que c'était vrai. Comme dira le pape Jean XXIII sur Padre Pio, qui avait eu quand même quelques sanctions de la part de l'Église, il a reconnu qu'il s'était fait tromper. Il avait été trompé. Eh oui, ah, mais ça courait les calomnies sur le Saint-Padre Pio. Il y a eu tout un temps comme ça où les calomnies, mais actuellement aussi, on voit qu'il y a des calomnies qui traînent. Attention, nous sommes faits pour adhérer à ce qui est vrai. Et là, Jésus, qui est le Verbe, qui est la vérité, vient à la rencontre de cette femme samaritaine qui est polluée dans son intelligence, encore une fois. On va dire, c'est pas de sa faute, elle a hérité ça de ses parents, les pauvres, ben oui, ben oui. Mais le fait est que le Seigneur vient la rejoindre et vient venir rectifier son intelligence. Et alors, ils vont parler ensemble de quelque chose de merveilleux, de l'adoration. Nous allons y revenir. De trois choses. L'aspect de l'eau. Tout de suite, Jésus la rejoint dans ce qu'elle vient faire, elle vient chercher de l'eau. Il est midi. Vous savez ce qui se passe à midi. Pour Saint Jean, il aime bien dire quelle heure il est. C'est un peu spécial comme manière, mais c'est toujours inspiré. Toute l'écriture est inspirée. Donc quand Saint Jean nous dit, voilà, et par exemple, venez et vous verrez, et ils demeurèrent chez lui, ils demeurèrent ce jour-là avec lui, ils virent où ils demeuraient, vous voyez, Jean et André, première rencontre avec Jésus, ben, c'était 4 heures de l'après-midi. Ah! Et là, Saint Jean nous dit, c'était environ la sixième heure. La sixième heure, c'est la crucifixion. C'est l'heure à laquelle Jésus dira sur la croix, j'ai soif. J'ai soif. Jésus a soif des âmes. Jésus a soif du cœur de cette petite Samaritaine. Pour Dieu, elle n'est pas fichue. Nous, souvent, de temps en temps, on pourrait tomber dans le piège et dans la tentation de dire, bon ben, c'est fichu. C'est fichu pour moi, c'est fichu pour ma famille, c'est fichu pour la France, c'est fichu pour le monde. On est tellement pollué, tellement blessé que c'est fichu. Pour Dieu, bien sûr, jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que Jésus a une telle soif des âmes qu'il va se livrer pour que de nos cœurs, morts que nous étions, et bien que nos cœurs revivent et que de nos cœurs on puisse dire « Fiat, je crois, j'accueille ton amour, je crois en ta miséricorde. » Etc., etc. Et non plus, ah, c'est super, les cinq divinités Baal, ou je sais pas quoi. Non, 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 Jésus, je crois en toi. Pour que nous puissions dire Jésus est Seigneur, c'est dans l'Esprit Saint, et ça a coûté la passion de Jésus. Pour que nous puissions dire Jésus, je t'aime, aujourd'hui, eh bien, Jésus a eu soif. Et alors, c'est à la même heure. Et pour Saint Jean, il y a une petite allusion très claire, justement, à ce mystère de la soif de Jésus, qui est la même que celle du Père. Alors, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, elle reste encore un peu au niveau ras des pâquerettes. Et puis, Jésus lui répond avec tellement de patience. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Bon, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Bon, il y a du chemin, mais elle a entendu. Elle a entendu. Premier cran d'impact dans son cœur. Donne-moi à boire. Alors, elle reste au niveau de la cruche, mais petit à petit, ça va se creuser en elle, et Jésus va toucher son cœur quand il va lui parler du mari. Ton amour, ton cœur, c'est ça que je veux. C'est pas ta cruche, C'est pas l'eau matérielle, c'est ton amour, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu as eu 5 maris, compliqué. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Donne-moi ton amour, donne-moi ton cœur. Autrement dit, et c'est comme on disait un petit peu dans la catéchèse précédente, sur les noces de Cana, voilà encore Jésus qui se manifeste comme celui qui seul peut combler la soif de notre cœur. Combien de détresse dans nos vies lorsqu'on ne se laisse pas combler par Jésus. Si on ne le fait pas en vérité, chaque jour de notre vie, on va aller chercher l'amour. On va aller mendier l'amour. On va vivre en manque, vous comprenez? Et du coup, ben quoi, on va séduire, on va ouvrir des espaces en nous pour nous faire battre. On va ouvrir des espaces pour se faire aimer. Et on sera toujours déçu. Il n'y en a qu'un amour qui ne déçoit jamais, c'est celui qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Avec cet amour-là, on peut devenir une source. Voilà le cheminement que le Seigneur est venu faire à notre place. Nos cœurs étaient morts, nos cœurs étaient faits au point de départ, si vous voulez, pour être des sources, bien sûr pour accueillir l'amour, mais pour être aussi des sources d'eau jaillissant en vie éternelle. Au point de départ, le Seigneur, lorsqu'il nous crée, avant le péché originel, c'est pour qu'on vive tout avec lui, par lui et en lui, et du coup qu'on soit des sources les uns pour les autres. Des sources numéro 2, des sources dans la source, si vous voulez. Mais de véritables sources. Le problème, c'est que on s'est déconnecté de la source numéro 1. Alors on s'est pris pour la source. Mon amour. Je vais t'aimer tous les jours de ma vie d'un amour infini. C'est beau, c'est beau. Et c'est faux. Enfin, c'est l'amour infini qui est faux. C'est que sans Jésus, tu ne peux pas aimer d'un amour infini. Tu ne peux pas être source d'eau jaillissant en vie éternelle pour tes amis si tu n'es pas connecté à la source numéro 1 qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, tu vas te prendre pour Dieu, tu vas te prendre pour... une source, et tu vas rendre les gens dépendants de toi. Et du coup, quand tu vas pas les aimer, ils vont crever. Non. Tandis que si tu es en Jésus, tu pourrais être source d'eau jaillissant en vie éternelle. C'était ça un peu, si vous voulez, le plan au départ. C'est qu'on soit des êtres d'amour qui aiment vraiment. Mais de cet amour, à partir de cet amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Et là, tout est juste, tout est ajusté, tout est bon, tout est beau, tout est magnifique. Se coupant de Dieu, on s'est pris pour la source. En sachant bien, au fond, qu'on n'est pas une source infinie. Alors, on va chercher l'amour, désespérément. Le Seigneur sait toutes ces choses, il nous connaît, et il vient à notre rencontre. Il nous dit, je connais ta soif non seulement d'être aimé, mais d'aimer. Il nous a créés pour ça. Et il nous dit, mais je viens te restaurer. Je viens te restaurer. Il avait déjà promis dans un passage magnifique d'Isaïe au chapitre 58, le Seigneur sans cesse te conduira, il te rassasira dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes os. L'os, dans l'anatomie biblique, c'est l'intériorité. C'est ce qu'on ne voit pas. On voit la peau, mais on ne voit pas les os. Donc il donnera la vigueur à tes os et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. promesse du Seigneur dans sa parole. Chapitre 58 du livre d'Isaïe, verset 11. Magnifique. Parce qu'on avait oublié à quel point notre cœur était beau, était grand, était noble, était digne. Et on ne voyait que nos blessures, que nos incapacités, que nos pollutions, que tout ce qui ne va pas tout le temps, et puis on dit on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et bien sûr, tu n'y arrives pas. Sans moi, tu ne peux rien faire. Mais le Seigneur sans cesse nous conduit, il nous rassasie dans les lieux arides. Pas facile hein, d'aimer tous les jours, c'est un peu aride, hein, de temps en temps, oui, mais le Seigneur est là, il nous rassasie. Il nous donne la vigueur, sans cesse, à notre intériorité, et il fait qu'on devienne un jardin arrosé et une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. De temps en temps, on a envie de dire, mais Seigneur, fais tout seul sans moi, vous voyez. Là, Seigneur, regarde, il y a 5000 hommes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants, il se fait tard. Renvoie-les, hein? Renvoie-les, puis nous, on ne sait pas comment faire, parce que bon, ben, il y a 5 pains de poisson, mais qu'est-ce cela pour autant de monde? Et Jésus, au lieu de dire, mais vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, je claque des doigts et il y a du pain qui va sortir comme ça, il va apparaître devant tout le monde. Il dit non, faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Ah oui, vous-même, parce que vous avez en vous, si vous êtes connecté à moi, vous avez en vous une source que vous avez oubliée. Et alors toute l'œuvre du Seigneur sera de nous refaire découvrir à quel point, par sa mort et sa résurrection, nos cœurs ont été restaurés et sont redevenus à nouveau des sources d'eau jaillissant en vie éternelle, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit. L'eau, c'est le symbole de l'Esprit. Alors, frères et sœurs, c'est très clair. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, crois que je t'ai restauré. Crois que j'ai fait de ton cœur blessé une source. Crois que j'ai tout mis dans ton cœur, que tu as tout ce qu'il te faut aujourd'hui pour aimer. Pour adhérer à la vérité aussi, pour croire en vérité. Ah ouais, mais mon passé, il n'est pas simple, hein ? Oui. Mais si tu vis dans ton passé, tu vas rater la splendeur de ton cœur rempli du Saint-Esprit qui est fait pour donner, pour expérimenter ton cœur qui est une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Il faut que tu aimes, il faut que tu y ailles. Faut pas que tu restes dans ton fauteuil. Vas-y. Ah oui, mais moi j'ai que des passions, je mets encore mélangé. Vas-y, aime en Jésus, tu vois. Exerce-toi, pratique. Pratique la charité. Et puis tu verras, le Seigneur te conduira, il va t'ajuster. Combien de personnes refusent d'aller sur les chemins de l'amour parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils se disent, mais moi, j'y arriverai pas. Aimer la même personne toute ma vie, j'y arriverai pas, je tiendrai un an, puis je serai, je sais pas. Ils n'y vont pas. Ah ouais, ça fait peur, et puis je serai peut-être au chômage, donc on ne sait pas ce qui peut arriver, donc... du coup, ils n'y vont pas. Ah, et puis, la Micheline, elle est jolie à 20 ans, mais bon, à 60, les hésitations, vas-y, n'aie pas peur. Si tu as Jésus dans ta vie, normalement, tu n'as peur de rien. Et puis, il est là pour t'accompagner. Mais vas-y. Pose un pas dans le sens de l'appel profond que Dieu t'adresse. L'appel profond, c'est-à-dire notre vocation profonde, nous sommes faits pour aimer. Alors, je terminerai par là, dans ce dialogue magnifique entre Jésus et la Samaritaine. Le Seigneur parle d'adoration. Les adorateurs que cherche le Père adorent en esprit et en vérité. Et dans les temps un peu particuliers que nous traversons, ce sont des temps où il nous faut retrouver justement notre os, notre intériorité, la colonne vertébrale de notre vie. Nous sommes faits pour adorer, avoir la bouche verte. Nous sommes faits pour adorer le Père en esprit, en vérité. Est-ce que c'est un type d'adoration qui va venir? Non, c'est un type d'adoration qui nous est déjà offert. Aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, je peux adorer le Père en esprit et en vérité. En vérité, pourquoi? Parce que mon adoration, elle est chrétienne, elle est celle de Jésus. Avec Jésus, j'adore le Père. Il n'y a que Jésus qui adore le Père en esprit, en vérité, j'allais dire. C'est notre prière, et nous aurons le temps d'y revenir dans quelques catéchèses plus tard. Notre prière de chrétien, elle est greffée sur la prière de Jésus. Donc notre adoration chrétienne, c'est celle de Jésus à l'égard du Père. De sorte que, bien sûr, il y a l'adoration eucharistique pour ceux et celles qui peuvent le faire. Et puis il y a l'adoration de l'Esprit en vérité. Et même devant Jésus Eucharistie, nous sommes appelés à entrer dans l'adoration que Jésus lui-même vit à l'égard du Père. Quand je me plante devant, pendant une demi-heure, une heure devant Jésus Eucharistie, normalement, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, il m'emmène avec lui, il me dit « Tu viens, on va adorer le Père. » « Ah, ben oui !» Je vais te montrer. Entre dans mon cœur et puis tu verras comment moi j'adore le Père. Et donc ce n'est ni à Jérusalem ni à Garizim, parce que le nouveau temple, c'est qui? C'est le corps du Christ. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait du sanctuaire de son corps. C'est en Jésus que nous adorons le Père. Et ça, je peux le vivre n'importe quand, n'importe où. Dans une église, dans une chapelle d'adoration, en marchant, sous ma douche, en prison, dans une maison de retraite, sur mon lit d'hôpital. Anytime, anywhere. Et le Seigneur veut nous fortifier beaucoup, je pense, dans cet esprit d'adoration. Il veut que nous soyons forts, que nos os, revigorés par sa mort et sa résurrection et par le don de son esprit, eh bien que nos os vivent en revigorés. Parce que le Seigneur nous a restaurés. Et il nous donne part à sa propre adoration. Voilà, frères et sœurs, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous avons confié cette catéchèse à la Vierge Marie en lui disant voilà, qu'il nous advienne selon la volonté de Dieu, bien sûr la volonté de Dieu dont Jésus parle, dans ce passage que nous avons lu. Je vais vous laisser en vous donnant la bénédiction du Seigneur, en vous redisant cette parole qui est quand même magnifique du chapitre Isaïe, à recevoir vraiment comme une parole qui est accomplie. Aujourd'hui, s'accomplit pour vous la prophétie. Voilà. Alors, donc c'est une prophétie, c'est une promesse de Dieu, en Isaïe 58, verset 11. Mais voilà, à recevoir au présent, aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui sont encore un peu trop sur leurs blessures, sur leur passé, sur « j'y arrive pas, j'y arriverai pas », recevez vraiment cette parole de Dieu comme une parole qui est accomplie en vous et pour vous, en Jésus. Le Seigneur sans cesse te conduira. Il te rassasira dans les lieux arides. Il donnera la vigueur à tes os. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. Et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.